13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, ambiance vendredi 13 sur Twitter. Elon Musk suspend son projet de rachat du réseau social. Il souhaite des précisions sur une série de détails avant de débourser 44 milliards de dollars. Ce sont quelques grammes de lune, mais un grand pas pour la conquête spatiale. Des scientifiques ont fait pousser des plantes dans un échantillon lunaire. De quoi envisager de la nourriture locale pour les spationautes des missions à venir. Et les astres ne révèlent toujours pas le nom du futur Premier ministre, alors que le premier mandat d'Emmanuel Macron s'achève ce soir à minuit. Souvenez-vous que vous êtes des serviteurs, a lancé Jean Castex à ses ministres lors du dîner d'adieu à Matignon hier. Nous nous arrêterons sur la façon de gouverner du Premier ministre sortant. Peut-il inspirer celui ou celle qui lui succédera? Et quel avenir pour la droite? Ce sera notre sujet à 13h30 avec notre invité, le secrétaire général du Parti Les Républicains, Aurélien Pradier. Il plaide pour tout reconstruire et pour une droite sociale, pas identitaire. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir. Dans l'actualité encore, manifestation redoutée à Jérusalem. Dans une heure, doivent commencer les obsèques de la journaliste palestinienne d'Al Jazeera, Shirin Abu Akleh. Une fièvre a gagné le pays. La Corée du Nord reconnaît qu'elle est confrontée à une vague de Covid. Kendrick Lamar, nouvel album pour la star du rap. Au-delà de la musique, un regard sur la société américaine. Et puis, qui est l'auteur d'une sculpture? Celui qui l'a imaginée ou celui qui l'a fabriquée? Procès passionnant à Paris. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Question à 40 milliards d'euros. Elon Musk va-t-il renoncer à acheter Twitter, le réseau social aux plus de 400 millions d'utilisateurs? Bonjour Luc Louris.
Et bonjour Bruno.
En direct de New York, le projet de l'homme le plus riche du monde connaît un arrêt. Il vient d'annoncer qu'il le suspend.
Oui, absolument. Et autant vous dire que la bourse à Wall Street ne réagit pas très bien. Elle n'ouvre qu'à 9h30. Il est 7h ici à New York. Mais dans les échanges qui précèdent la cloche, eh bien, l'action du groupe s'est effondrée de près de 20%. C'est la conséquence donc de cette annonce d'une suspension du rachat de Twitter par Elon Musk. Le patron de Tesla a posté un message très court, justement, sur le réseau social, indiquant qu'il attendait de savoir si les faux comptes d'utilisateurs représentaient bien moins de 5% sur la plateforme. C'est l'une de ses priorités. C'est en tout cas un coup d'arrêt pour le rachat du groupe, bouclé en à peine plus de deux semaines en avril pour 44 milliards de dollars, mais ce n'est pas totalement une surprise. L'homme le plus riche du monde est habitué des décisions brutales et des coups médiatiques. Cette semaine encore, il se disait ainsi prêt à réintégrer Donald Trump sur Twitter. Et il faudra attendre, bien sûr, la suite de ce feuilleton, mais Elon Musk n'envoie pas un signe très positif au conseil d'administration du réseau.
Loïc Laurie en direct de New York, et Twitter est dans l'attente. Hier, le groupe annonçait geler les embauches, sauf celles qui sont jugées essentielles, avant d'en savoir plus sur son avenir. Du monde dit virtuel des réseaux sociaux au monde spatial. Et cette question clé pour les futures missions sur la Lune et même au-delà, sera-t-on capable de cultiver des plantes et donc des sources de nourriture pour les astronautes? Bonjour Sophie Becherel.
Bonjour.
Des scientifiques de l'Université de Floride, Sophie, viennent de réussir à faire pousser des plantes dans un tout petit échantillon de sol lunaire.
Oui, vraiment tout petit. Ces chercheurs ont déposé un gramme de régolithe dans des godets de la taille donc d'un dé à coudre.
Oui.
Du sol lunaire issu de trois missions différentes, Apollo 11, Apollo 12 et 17. Ensuite, ils ont déposé une graine d'Arabidopsis. C'est une plante de laboratoire très utilisée en recherche, donc archi connue. Chaque jour, les graines ont été arrosées avec une solution nutritive. Au bout de 20 jours, eh bien, toutes avaient donné des feuilles. Preuve que ce sol lunaire n'est pas stérile, explique Hervé Doll de l'Institut d'astrophysique spatiale, interrogé par Anne Orenstein.
Finalement, c'était un résultat plus ou moins attendu, vu que la composition du sol de la Lune est proche de celui de la Terre. L'autre bonne nouvelle, c'est que dans la perspective d'une exploration lunaire un petit peu plus poussée que par le passé, où on pourrait imaginer que le sol lunaire puisse servir de terreau à d'éventuelles cultures, même si effectivement les astronautes vont peut-être pas manger que de la salade verte pendant 3 mois sur place.
Étonnamment, ces essais n'avaient jamais été faits auparavant. Il faut dire que les échantillons lunaires, 380 kilos en tout, sont de précieux trésors pour la NASA. Ne les utilise pas qui veut. Et si on n'est pas prêt de manger des salades ou des patates lunaires, c'est que l'expérience a montré le stress ressenti par ces plantes. Au bout de 6 jours, comparativement aux échantillons témoins, la croissance avait ralenti et les racines sont rabougries. Preuve que la poussière de lune n'est pas très riche, mais qu'on se rassure par la méthode de l'hydroponie, vous savez, de l'eau et des nutriments. On a déjà fait pousser des tas d'autres légumes dans l'espace, dans l'ISS notamment.
Et l'actualité spatiale est dense en cette fin de semaine. Hier, cette image d'un énorme trou noir au cœur de notre galaxie. Et ce soir, va-t-on tomber dans un trou noir politique à minuit prend officiellement fin le premier mandat d'Emmanuel Macron, mais le nouveau gouvernement n'est toujours pas nommé. Jean Castex doit encore représenter la France dimanche pour la canonisation du frère ermite Charles de Foucault. Alors, question posée en tremblant par Yaël Gauze au spécialiste de droit constitutionnel Jean-Philippe de Rosier, que se passe-t-il ce vendredi 13 à minuit ?
Eh bien, il se passe qu'une seconde après, nous serons le samedi 14 mai. Comme il a été réélu le 24 avril dernier, il enchaînera automatiquement avec le nouveau mandat et cela n'a aucune autre conséquence formelle sur le plan constitutionnel, si ce n'est qu'effectivement, on entre dans l'acte 2 ou le quinquennat 2 d'Emmanuel Macron. Mais le gouvernement ne tombe pas pour autant. La démission du Premier ministre n'aura lieu qu'à partir du moment où celui-ci voudra bien la donner au président de la République. Et il n'est d'ailleurs absolument pas obligé de le faire.
Peut-il démissionner dimanche alors qu'il est au Vatican ?
Rien n'oblige le Premier ministre à être en France au moment où il remet sa démission, ou en tout cas où il la fait remettre. Même s'il l'a remise avant, il peut tout à fait être au Vatican, partir au Vatican. Il sera chargé de l'expédition des affaires courantes jusqu'à nomination d'un nouveau Premier ministre. Et par conséquent, il peut tout à fait se rendre au Vatican comme il l'a prévu.
Et donc Jean Castex est toujours à la tête du gouvernement. Hier, il organisait un dîner d'adieu à Matignon avec ministre et conjoint. N'oubliez jamais que nous ne sommes que des serviteurs. Les ambitions sont légitimes, mais elles ne valent qu'au service du collectif, a-t-il lancé. Voilà le message d'au revoir, le cadeau d'au revoir. C'est un maillot de rugby pour l'homme du Sud-Ouest. Jean Castex laisse par ailleurs entendre qu'il ne sera pas à quelque poste que ce soit dans le prochain gouvernement. Bonjour Maxence Lombrec.
Bonjour.
Maxence, alors qu'on s'interroge sur le profil du ou de la futur locataire de Matignon, technocrate, société civile, élu local, politique expérimenté ou pas, on peut s'arrêter sur le style Castex qui aura gouverné pendant presque 2 ans.
Oui, il était vu au départ comme un haut fonctionnaire sarkozyste, au physique de bûcheron, au costume mal taillé, loin très loin de la popularité d'Edouard Philippe. Mépris sociologique, estime alors son équipe, il débarque chez les Français les jeudis à 18h.
Limitons les grandes fêtes, portons le masque, aérons les pièces, respectons les gestes barrières.
20 conférences de presse Covid. Il est devenu tonton Castex, un peu casse-pied mais honnête, se réjouit une conseillère, notamment grâce à son accent, révèle le ministre délégué Jean-Baptiste Lemoyne.
Il avait cette faconde du Sud-Ouest qui était authentiquement sincère. Voilà. Et je crois que quand les gens voient que vous les aimez, ils le ressentent et ils vous le rendent.
Il en a joué plus d'une fois, tempère un de ses ministres qui l'a souvent vu négocier un travail de l'ombre dans la France périphérique.
On a pu sortir des dossiers qui étaient parfois encalaminés depuis des années, depuis des décennies. Je prends un exemple, la déviation Sud de Serre, vieux dossier, eh bien, il a pris des arbitrages. Je sais qu'il a fait ça dans d'autres départements.
Mesdames et messieurs les élus de ce beau territoire où j'étais encore il n'y a pas si longtemps.
352 déplacements à son actif en moyenne, un jour sur deux, du jamais vu. La légende veut que le matin, il ne lisait que l'Indépendant des Pyrénées, parfois la Vie du Rail et jamais aucun sondage. Pas un mot n'est sorti de ses tête-à-tête avec Emmanuel Macron, qui lui doit en partie sa réélection. Il s'en va comme il est venu, sans ambition personnelle.
Et le prochain gouvernement aura un chiffre dans son orbite. L'inflation, près de 5% sur un an, confirme l'INSEE ce matin, 4,8 précisément. La politique, on y revient à 13h30. Quel avenir pour la droite ? Notre invité sera Aurélien Pradier, secrétaire général des Républicains. Il appelle à tout reconstruire et bâtir une droite populaire plutôt qu'identitaire. Vos questions sur cet avenir de la droite, 01 45 24 7000 dès maintenant. Il y a aussi l'appli France Inter, rubrique Réagir. Jean Castex sera donc au Vatican ce week-end, alors que la santé du pape François, 85 ans, fait l'objet régulièrement de questions. Eh bien, cette santé lui permet en tout cas d'envisager un long voyage. Annonce faite ce matin, François doit se rendre en juillet au Canada. Nouvelle journée de tension redoutée à Jérusalem. Dans moins d'une heure se tiendront les obsèques de la journaliste Shirin Abu Akleh. Cette reporter d'Al Jazeera, américano-palestinienne, star dans le monde arabe, a été tuée d'une balle dans la tête avant-hier en plein reportage sur une opération israélienne à Jenin, en Cisjordanie. Bonjour Frédéric Mettezo.
Bonjour à tous.
Vous êtes en direct, Frédéric, de Jérusalem, près de l'endroit où se tiendront les obsèques selon le rite chrétien dans une église de la vieille ville, cérémonie sous haute surveillance.
Oui, c'est ça, Bruno. Le convoi funéraire vient de partir de l'hôpital Saint-Joseph dans le quartier palestinien de Beit Hanina, à quelques kilomètres d'ici. Il y a des centaines et des centaines de personnes qui sont là, drapeau palestinien à la main, contre les consignes de la police israélienne. La police israélienne déployée en nombre avec un hélicoptère qui passe à l'instant au-dessus de nous. Et donc la police va accompagner cette foule palestinienne très en colère jusqu'à la porte de Jaffa, jusqu'à l'église syriaque Saint-Marc en vieille ville. La vieille ville qui est elle aussi partiellement bloquée. Vous le savez, ce sont des rues très étroites, très sinueuses. Il y a des barrières, il y a des policiers, il y a beaucoup de journalistes. Et donc, on attend ici la foule avant la messe dans une heure et avant l'inhumation au cimetière chrétien du Mont Sion en fin d'après-midi.
Et l'agence France Presse fait état de première scène de violence tout près de l'hôpital où est entreposé le cercueil de la journaliste. On verra ce qu'il en est dans les minutes à venir. Est-ce que l'enquête sur les conditions de sa mort a progressé, Frédéric ?
Non, aucune avancée concrète, Bruno. À l'instant, l'armée israélienne déclare qu'il est impossible de dire qui a tiré le coup de feu et cela profite aux complots et aux invectives sur les réseaux sociaux. L'autorité palestinienne refuse de participer à une enquête conjointe avec Israël, tout comme elle refuse de transmettre la balle qui a frappé la journaliste. Elle veut mener, l'autorité palestinienne, sa propre enquête et saisir la Cour pénale internationale. Les médias israéliens sérieux estiment que pour le moment, aucune des vidéos partagées sur Internet n'accrédite une thèse ou l'autre. Contrairement au premier communiqué, il y a 48 heures, l'armée israélienne est donc désormais beaucoup moins accusatrice.
Frédéric Mettezo en direct de Jérusalem et de nouveaux heurts ont eu lieu entre armée israélienne et militants palestiniens ce matin dans ce camp de Jenin où a été tué Shirin Abu Akleh. Quelle est l'ampleur de l'épidémie de Covid en Corée du Nord ? Jeudi, le régime, l'un des plus opaques du monde, annonçait ce qui était officiellement présenté comme le tout premier cas en 2 ans et demi de pandémie. Confinement dans la foulée. Aujourd'hui, il est question du premier mort et d'une fièvre qui se serait propagée dans tout le pays. Bonjour Antoine Bondaz.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de l'Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. D'abord, on peine à croire que la Corée du Nord ait été totalement épargnée en 2 ans de pandémie jusque-là.
Alors, effectivement, on peut penser qu'il y a eu, de fait, quelques cas en Corée du Nord, mais il ne faut pas oublier que le pays est le premier à avoir fermé ses frontières dès le début du mois de janvier 2020. Et ça s'explique non seulement par la nature du régime, mais aussi par la vulnérabilité du système de santé nord-coréen. Les autorités ont parfaitement conscience qu'elles ne peuvent pas contrôler, ou en tout cas contrôler difficilement, une épidémie. Il fallait donc avant tout prévenir une telle épidémie. Or, désormais, avec le variant Omicron qui est beaucoup plus contagieux et qui, en plus, conduit à de nombreux cas asymptomatiques, il est extrêmement difficile pour les autorités nord-coréennes de faire face. Et donc, la situation est critique, ce qui explique, d'ailleurs, les mesures et le fait d'avoir officialisé ces premiers cas en Corée du Nord.
En rappelant que personne n'est vacciné en Corée, que sait-on au fond de ce qui se passe et de l'état de l'épidémie dans le pays et comment le savoir ?
Alors, il faut être très clair, les informations sont extrêmement parcellaires. Il y a celles qui nous sont fournies directement par les médias d'État nord-coréen, donc l'officialisation d'un premier cas, et puis surtout des informations indirectes. Le fait que Kim Jong-un, personnellement, appelle de fait à une sorte de gestion de crise, qu'il apparaisse en public, masqué. Tout cela met en scène la gravité politique de ce qui se passe en Corée du Nord et de la gravité sanitaire et de la volonté donc des autorités désormais de faire face avec, vous l'avez rappelé, un premier problème important qui est qu'il n'y a pas de vaccination. On ne parle pas de peu de vaccination, d'une mauvaise vaccination. Il n'y a pas de vaccination en Corée du Nord. Et deuxièmement, la Corée du Nord n'a pas les capacités chinoises, par exemple, de dépister massivement et rapidement les 25 millions de Nord-Coréens. Et donc, les Nord-Coréens vont devoir gérer cette pandémie en quelque sorte à l'aveugle.
L'agence France Presse évoque une parade militaire, un défilé en avril qui pourrait être à l'origine de la contamination d'aujourd'hui. Alors, vous le disiez, prudence avec toutes les informations qui viennent de Corée. Est-ce que vous avez des informations de cette nature ?
Alors, je pense qu'il faut remonter au début du mois de mars, puisque en mars, il y a eu une flambée épidémique à la frontière avec la Corée du Nord, dans la province du Jilin, en Chine. On sait que ce niveau de la frontière n'est pas parfaitement hermétique, contrairement aux villes points de passage, par exemple la ville de Dandong. Et donc, il était dès le mois de mars 2022, probable qu'il y ait eu de fait des contaminations à la frontière, ce qui expliquerait d'ailleurs la propagation du virus jusqu'à la ville de Pyongyang. Et donc c'est peut-être cela qui explique les premières chaînes de contamination, et peut-être, c'est possible, une amplification des contaminations avec la parade militaire.
Merci Antoine Bonda, spécialiste de l'Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique, d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions. L'Ukraine, 500 millions d'euros supplémentaires. L'Union européenne s'engage à fournir cette aide pour aider le pays à se défendre de l'invasion russe. On approche des 3 mois de guerre et vous l'avez peut-être remarqué dans nos journaux, il y a moins de détails sur les combats. Non pas qu'ils aient cessé, loin de là, hélas, mais Éric Biegala, l'armée russe peine plus que jamais à progresser.
Oui Bruno, l'essentiel de l'effort militaire consenti par l'armée russe en Ukraine, c'est dans le Donbass qu'elle le fournit. L'objectif tel qu'annoncé par les plus hautes autorités russes étant de s'emparer de la totalité du territoire des deux régions administratives de Luhansk et Donetsk. On est encore très très loin du compte, 3 semaines après le début de cette offensive. Dans la région de Donetsk d'abord, les Russes n'ont pas réussi à obtenir de gains territoriaux notables. Leur tentative par exemple de passage sur la rivière Seversky-Donetsk ces 10 derniers jours grâce à des pontons flottants se sont soldés par de très très lourds échecs. Les unités motorisées ont été réduites en pièces par l'artillerie et les drones ukrainiens, avec à la clé la perte de plusieurs dizaines, peut-être centaines de blindés. Dans la région de Luhansk, les forces russes, là, avancent très très lentement, mais elles avancent. La ville de Roubijne semble être finalement sous leur contrôle depuis hier, et l'armée de Moscou arrive devant Sieverodonetsk et Lysychansk. Ce sont les 2 dernières agglomérations d'importance de la région de Luhansk, 100 000 habitants chacune avant-guerre, mais il faudra encore prendre ces 2 villes, qui sont quasi mitoyennes, et ça, ce n'est vraiment pas gagné.
Et alors que le G7 se dit uni pour soutenir l'Ukraine jusqu'à la victoire, alors que la Grande-Bretagne demande plus d'armes et de sanctions pour maintenir la pression sur Vladimir Poutine, le dirigeant russe va-t-il sortir l'arme économique massive, couper le gaz? De ce point de vue, il y a une échéance importante dans une semaine, autour du 20 mai. La Russie, vous le savez, demande à être payée en roubles pour ses fournitures de gaz, façon de contourner les sanctions internationales qui asphyxient son économie et sa monnaie. Les importateurs européens de gaz vont-ils accepter ou pas, au risque de voir le robinet se fermer? Avant cette échéance, Christian Chéneau a interrogé Thomas Pellerin-Carlin, directeur du Centre Énergie de l'Institut Jacques Delors.
Clairement, depuis le 27 avril, la Russie est passée de la menace à l'acte. Donc Vladimir Poutine a coupé le gaz à la Pologne et à la Bulgarie. Et donc du coup, il y a vraiment une épée de Damoclès qui pèse sur toutes les livraisons de gaz vis-à-vis de toute l'Union européenne, sans aucune exception. Donc à n'importe quel moment, Poutine peut faire à l'Allemagne, à la France et à l'Italie ce qu'il a déjà fait à la Bulgarie et à la Pologne, c'est-à-dire couper ses livraisons de gaz. Alors la question du rouble est à mon avis avant tout un prétexte politique. On a un choix de Vladimir Poutine d'utiliser le gaz comme une arme géopolitique. Vladimir Poutine utilise la question du gaz comme une arme géopolitique depuis 16 ans maintenant, depuis la première crise avec l'Ukraine en 2006. La grande différence, c'est que cette fois-ci, il n'a pas coupé le gaz aux Ukrainiens, ce qui était le cas en 2006 et en 2009. Il a coupé le gaz à des États membres de l'Union européenne, ce qui est historique. C'est quelque chose qui n'était même pas advenu à l'époque de la crise des euromissiles dans les années 80, à l'époque de l'Union soviétique.
Un propos recueilli donc par Christian Chéneau, et après plus de 2 mois et demi de guerre, plus de 6 millions d'Ukrainiens ont dû quitter leur pays. C'est le dernier chiffre donné par l'ONU.
France Inter. Le 13-14, Bruno Duvic.
Pour le plaisir de la rupture et parce que c'est une actualité importante, musique, rap au milieu de ce journal. L'américain Kendrick Lamar, prix Pulitzer Musique en 2018, reçu jadis par Obama à la Maison Blanche, sort aujourd'hui son 5e album. C'est un événement à double titre, c'est l'un des disques les plus attendus de l'année. Et depuis le début de sa carrière, l'artiste californien s'est fait commentateur de la vie de la communauté noire aux États-Unis. Bonjour Mathieu Culeron.
Bonjour.
Ce 5e album, Mr. Moral and the Big Steppers, est clairement un événement.
Oui, c'est la sortie qui vient consacrer un artiste au sommet de son art. Sur la pochette, le rappeur tourne le dos au public et porte une couronne d'épines en se tenant devant sa femme qui allaite leur enfant, tout un symbole. Et parmi les titres qui seront bientôt déclassés, qu'il y a ce Mother Eyes Sober, on y entend Kendrick Lamar évoquer le viol d'une mère, un tabou, une violence jamais digérée, une malédiction familiale. Une chanson très émouvante qui se termine par la voix de sa femme et de son fils qui le remercie pour ce témoignage. Un titre où est invitée la voix délicate de Bess Gibbons, la chanteuse de Portishead.
I'm sensitive, I feel everything, I feel everybody. One man, standing on 2 words, heal everybody. Transformation, then reciprocation, karma must return. Heal myself, secrets that I hide.
Et dans ce dernier album, Kendrick Lamar évoque des épisodes personnels, donc, mais aussi des thèmes rarement abordés dans le rap, Mathieu.
Oui, autre témoignage fort avec Anti Diaries, un titre qui raconte l'humiliation intrafamiliale d'une personne transgenre, une tante de la famille qui est donc devenue un homme, petit récit de l'homophobie ordinaire dans la société américaine, un sujet souvent ignoré dans le monde du rap quand il n'est pas tout simplement moqué. Elementary kids with no filter, however, my auntie became a man and I took pride in it. She wasn't gay, she ate pussy and that was the difference. That's what I told my friends in second grade.
Extrait d'Anti-Diaries de Kendrick Lamar. Le disque décrit le monde et la société actuelle également, Mathieu.
Oui, dans Savior, par exemple, Kendrick Lamar écrit « Voir un chrétien porter la marque du vaccin comme celle du démon, puis le voir attraper le Covid. » Le rappeur, une nouvelle fois, chronique l'Amérique en mêlant ses propres démons et l'actualité. Un album très personnel, incroyablement maîtrisé techniquement. Un grand disque qui démontre une fois de plus que Kendrick est bien le roi du rap en l'emmenant vers la voie du sentiment et de l'intelligence. The pressure's taking over me, it's beginning to loom. Better if I spare your feelings and tell you the truth. Mr. Moral and the Big Steppers, sortie du cinquième album de Kendrick Lamar. Aujourd'hui, toujours aux États-Unis, la revue scientifique The Lancet met de côté la neutralité et publie un éditorial à propos de la menace qui pèse sur le droit fédéral à voter. Des femmes vont mourir, écrit The Lancet. Les juges auront du sang sur les mains si l'avant-projet d'une décision de la Cour suprême remettant en cause le célèbre arrêt Roe vs. Wade est confirmé. La culture au cœur de la société, de l'actualité, l'actualité judiciaire parfois. Avec ce procès à Paris, autour d'une question assez passionnante. Qui est l'auteur d'une sculpture ? Est-ce celui qui l'a conçue ou celui qui l'a matériellement fabriquée ? Il y a beaucoup d'argent à la clé derrière cette question. Le procès oppose la star de l'art, l'italien Maurizio Catlan, au français Daniel Druet. C'est lui qui a concrètement réalisé quelques-unes des œuvres les plus célèbres de Catlan. Hitler en petit garçon à genoux, par exemple. 17 millions d'euros chez Christie's. Mais pour cette œuvre, Druet a touché quelques 30 000 euros. Il demande à être considéré comme l'auteur des œuvres. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
Vous avez assisté au débat ce matin au tribunal judiciaire de Paris devant un public nombreux pour une audience civile. Pour les spécialistes, au fond, c'est la question de ce qu'on appelle l'art conceptuel qui est en jeu.
Et oui, alors pour résumer très grossièrement, l'art conceptuel met en avant une idée, un message plutôt que l'objet présenté. Maurizio Catlan a par exemple demandé à Daniel Druet de lui faire une sculpture de Jean-Paul II et l'artiste italien a ensuite mis ce pape en scène au sol frappé par une météorite, ce qui a donné l'œuvre La Nonna Ora. Alors pour l'avocat du sculpteur français, Maurizio Catlan a donné des instructions, mais c'est bien Daniel Druet qui a fourni le travail créatif. Il a dans ses pouces cette magie artistique, insiste Jean-Baptiste Bourgeois. Or, aux yeux de la partie adverse, ce qui compte, ce n'est pas l'objet, mais l'installation. Daniel Druet demandera être l'auteur de la Nonna Ora, pas du pape, plaide Pierre-Olivier Sûr, qui détaille des consignes données au sculpteur. Ce sont des instructions d'une précision mathématique. Il insiste, l'art conceptuel consiste à projeter une émotion sur celui qui le reçoit, non pas par un objet, mais par une situation. Tous les maillons sont importants, mais si on change le maillon Druet, ça n'a aucune importance. En face, le sculpteur, deux fois primé par le Grand Prix de Rome, encaisse. La décision du tribunal a été mise en délibéré au 8 juillet.
Et à propos de sculpture, une des petites danseuses de Degas a été vendue hier près de 42 millions d'euros chez Christie's à New York, ce qui est un record pour l'artiste. Il est donc des auteurs présumés de meurtres qui passent aux aveux 36 ans après les faits. Le mari de Marie-Thérèse Bonfanti témoigne. Le 22 mai 86, cette mère de deux enfants, elle avait 25 ans à l'époque, avait disparu de Pontcharrat près de Grenoble. Elle distribuait des journaux, sa voiture avait été retrouvée, la clé sur le tableau de bord. Et hier, un homme déjà soupçonné à l'époque et connu à l'époque pour des faits de violence contre des femmes est passé aux aveux. Persévérance de la famille et des enquêteurs. Il avait été de nouveau cet homme interpellé au début du mois. Alors comment reçoit-on cette nouvelle quand on est le mari de la victime? Thierry Bonfanti ce matin sur France Info.
C'est vraiment quelque chose qui nous a touchés profondément. Nous n'y croyons plus. Et la ténacité de toute la famille, puisque nous sommes tous ensemble depuis le début, c'est de ne jamais renoncer. C'est pour ça que la famille est très importante dans ces cas-là. Parce que quand vous êtes un peu découragé, il y a toujours quelqu'un derrière qui reprend le flambeau. Nous avons eu un soulagement énorme, puisque cette affaire est enfin mise à jour. Ça permet déjà de reprendre cette personne et de faire en sorte à ce qu'elle ne sévisse plus sur d'autres femmes, puisque apparemment son problème ce sont les femmes. C'est surtout pour le futur qu'il réitère pas ses actions. Et puis, ma foi, il faut qu'il paye pour ses fautes. Hein. Je sors de prison depuis 36 ans, et lui il va rentrer en prison. C'est son tour.
Voilà ce témoignage recueilli par Marc Fauvel. Un débat juridique va s'ouvrir maintenant, prescription ou pas. Le groupe de maisons de retraite Orpea ne sort pas indemne du scandale ouvert fin janvier par le livre Les Fossoyeurs. L'enquête du journaliste Victor Castanet pointait une obsession de la rentabilité qui aboutissait à des maltraitances de résidents. Une enquête judiciaire est ouverte. L'État demande la restitution des fonds publics touchés par Orpea. Le groupe vient de détailler ses comptes. Le bénéfice chute, Fabien Cazot, notamment parce qu'Orpea met de l'argent de côté pour faire face aux éventuelles sanctions et condamnations qui pourraient le toucher.
Les provisions qu'Orpea inscrit dans ses comptes pour faire face aux risques et aux charges liées aux enquêtes en cours font plonger le résultat net de moitié, alors que le chiffre d'affaires se maintient, lui, à un niveau de croissance élevé, plus 9,5% l'an dernier, encore plus 9% au premier trimestre 2022. Orpea se réjouit, dans un communiqué publié ce matin, de la solidité de ce chiffre d'affaires, tout en le resituant dans une perspective de crise violente que traverse le groupe. Ferrare, dans le cadre d'une communication financière, Orpea remercie en préambule les familles qui continuent de lui confier leurs aînés. Pour la suite, le groupe redit sa volonté d'ouvrir une nouvelle page de son histoire. Ce sera la mission d'un nouveau directeur général qui prendra ses fonctions au 1er juillet. À lui de restaurer la confiance avec l'État, les clients et les partenaires du groupe. Pour ce qui est des banques, Orpea a profité de la publication de ses résultats ce matin pour annoncer un accord de principe pour sécuriser son financement via notamment l'octroi d'un crédit d'1,730 milliard d'euros.
Et après avoir chuté en début de journée, l'action remonte à la Bourse de Paris, plus 1,7% à l'instant. À la télévision, la saison 2 d'HPI fait un départ canon, plus de 9 millions de téléspectateurs hier, plus de 40% de part d'audience. Nous parlions de sculpture tout à l'heure. Autre activité qui n'a de commun avec celle-ci que le nom, la sculpture végétale. Cela s'appelle l'art topiaire. Ce sont les journées mondiales de la discipline. Et Lucie Rispal, le domaine d'Erignac en Dordogne, ouvre ses portes aux visiteurs pour qu'ils puissent apprécier l'art des jardins à la française.
Depuis 25 ans, Laurent Chabal est l'un des 6 jardiniers du domaine d'Erignac. 10 hectares de verdure taillés au cordeau par des cisailles d'or.
Alors là, on est en train de faire la première taille de l'allée des charmes, l'allée principale des jardins d'Erignac, la plus importante des jardins.
Mais avant de sculpter des buissons, il travaillait pour la mairie de Paris.
Ah ben, je considère mon métier comme un des plus beaux métiers du monde. On ne fait pas ça pour avoir un emploi, on fait ça parce qu'on a décidé de le faire. Parce qu'on aime ça, parce que depuis toujours, tout petit, on était attiré par la nature, les jardins, etc.
Dans ce décor parfaitement entretenu, dans le style des jardins à la française du XVIIIe siècle, le propriétaire des lieux, Patrick Servadiras, est attentif aux moindres détails, à la plus petite feuille qui dépasse. Ces jardins, classés monuments historiques, inspirent les visiteurs.
Les gens, évidemment, essaient de voir ce qu'ils peuvent faire chez eux. Si j'étais copié un jour, je serais ravi, mais je leur souhaite beaucoup de courage parce qu'un jardin, ça demande énormément d'entretien.
Dans sa famille, l'art topiaire se transmet depuis 22 générations de père en fils.
C'est une grande histoire d'amour entre mon père et moi, c'est certain, ce jardin. Chaque centimètre carré me rappelle une histoire avec lui.
Le fils de Patrick, Gilles, 23 ans, diplômé d'une école de commerce, a lui aussi été formé à la taille des végétaux et il reprendra le flambeau des ciseaux dans 2 ans.
Et au-delà de ces journées mondiales, les jardins d'Erignac sont ouverts tous les jours, 9h30. 19h dans le Périgord noir qui devrait être sous le soleil ce week-end. On voit ça dans un instant.
France Inter présente.
On ne plaisante pas avec l'humour. La grande tournée des humoristes France Inter, les 12 et 13 juin à Paris.
Eh oui, la fine fleur de l'humour service public est en tournée. Engagé, résistant et même drôle, tous les humours sont présents sur France Inter. Mais alors, pourquoi cette musique triste ? Eh ben parce que sur France Inter, on ne plaisante pas avec l'humour.
C'est sérieux, mais ça va être génial ! Au casting, il n'y a que du bon et même de l'excellent !
On ne plaisante pas avec l'humour. Dimanche 12 et lundi 13 juin au Théâtre de la Renaissance à Paris. Plus d'infos sur franceinter.fr.
France Inter aime...
Parlement, une série à retrouver sur France.tv.
Tu as 2 types de députés, les psychopathes et les imbéciles.
Une comédie politique détonnante. Samy, un jeune assistant parlementaire à la découverte des arcanes des institutions européennes, doit jongler entre ses valeurs, son travail et ses amours.
J'annonce quoi demain à la matinale ?
The Blue Deal.
Parlement, une série France TV / à suivre sur France.tv et France 5.
Ça fait du bien de reformer l'orchestre.
Un partenariat France Inter.
Voyons le temps de ce jour.
La météo avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Soleil et quelques averses orageuses sur le centre-est cet après-midi.
Oui, on trouve beaucoup de soleil aujourd'hui dans un ciel souvent tout bleu. Alors quelques nuages tout de même du sud-ouest vers l'intérieur de la Bretagne, le centre-Val de Loire, le nord de la Bourgogne. Un soleil un peu voilé autour de la Méditerranée. Et puis entre le massif central, le nord des Alpes, le Jura. Là, c'est un peu plus menaçant avec des averses orageuses au menu, en particulier sur le massif central. Un peu de grêle possible même. Ces averses s'atténueront ce soir. Les thermomètres affichent une nouvelle hausse à l'ouest. Alors 16 à 21 degrés près de la Manche cet après-midi, 21 à 24 sur les autres régions du nord et 23 à 29 au sud. Et puis ce week-end, il va faire encore plus chaud. On aura une moyenne de 28 degrés au nord dimanche, 29 au sud. Il se sera très ensoleillé. Mais attention, on a des averses orageuses qui circuleront sur une bonne moitié ouest pour dimanche.
Élodie Calac, Météo France. Il est 13h30.
France Inter. Le 13-14. Bruno Duvic.
Alors que sa candidate a rassemblé moins de 5% des suffrages exprimés à la présidentielle, quel avenir pour la droite, le parti Les Républicains? Les législatives dans un mois se préparent, il y aura des candidats LR ou UDI et Nouveau Centre dans quasiment toutes les circonscriptions. Mais c'est bien de nouvelles années d'opposition que s'apprête à vivre le parti héritier de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Pèsera-t-il autant à l'Assemblée et dans le débat public que lors du premier quinquennat? Ou bien la droite républicaine est-elle vouée à se réduire comme peau de chagrin entre un centre macroniste et une droite identitaire? LR, c'est aujourd'hui une centaine de députés, premier groupe d'opposition. Les premiers sondages évaluent à 50 à 70 sièges. Le futur groupe, ce serait 2 à 3 fois moins que la nouvelle alliance à gauche. Ce ne sont évidemment que des premiers sondages. Le secrétaire général des LR est aujourd'hui notre invité. Son discours est clair, net et radical. Il faut tout reconstruire. Bonjour Aurélien Pradier.
Bonjour.
01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique réagir pour que les auditeurs vous posent toutes leurs questions. Vous êtes clair et net, je le disais, vous dites c'est aujourd'hui notre projet politique qui nous fait échouer.
Oui, ce que je dis, je pense que tous les Français le comprennent et le partagent avec moi. Notre famille politique, la droite républicaine, a échoué depuis de nombreuses années. Depuis le deuxième épisode de Nicolas Sarkozy, nous allons d'échecs électoraux en échecs électoraux. Alors on peut considérer que c'est les Français qui ne nous comprennent pas. On peut aussi considérer que nous ne sommes plus en adéquation avec ce que les Français peuvent attendre d'une grande famille politique comme la nôtre. Donc j'ai pas le sentiment de dire quelque chose d'extraordinaire en disant qu'après résultats aussi mauvais aux élections présidentielles, il faut tout rebâtir et pouvoir s'adresser à tous les Français. Ça fait longtemps que la droite française ne parle plus aux Français.
Alors qu'est-ce qui ne va pas dans ce projet de politique? D'où vient le décalage avec les Français?
D'abord, c'est pas seulement lié à la droite française. Politique, pour moi, c'est autant une affaire de comportement que de projet politique. Et peut-être un mot du comportement d'abord. La droite française, elle disparaîtra le jour où elle voudra se vendre aux uns et aux autres. Et c'est vrai que le spectacle auquel nous assistons aujourd'hui, à droite comme à gauche d'ailleurs, où c'est sauf qui peut pour tenter de sauver un poste, les convictions sont devenues quelque chose de secondaire. Moi, je crois que la droite française, elle doit aussi retrouver un code d'honneur dans son comportement, dans son attitude. Je sais que ça paraît un peu ringard de dire ça, mais pour moi, la politique, c'est d'abord une affaire de comportement, de fidélité. La période des girouettes, pour moi, ne sert personne, aucun parti politique et pas la démocratie. Pour ce qui est du projet, je crois à une droite populaire, mais là encore, je ne suis pas le seul à le dire. Comment aujourd'hui la droite française relève le défi des salaires, le défi de la dignité pour ceux qui travaillent dur et qui ne sont pas récompensés? Comment on relève le défi de l'écologie, de l'environnement, de la justice sociale? Moi, je pense que la droite française, elle a un chemin qui est celui de la dignité et de la justice sociale. C'est peut-être un peu différent de ce qu'on entend depuis quelques temps.
Droite sociale plutôt qu'identitaire. Question de Gaston au standard à ce sujet. Bonjour Gaston.
Allô, oui, Gaston, oui, j'habite Orléans, mais là, je suis sur la côte catalane. Oui. Donc, j'aurais une question à poser. Vous m'entendez bien?
Oui, très bien, parfaitement.
Oui, je vous remercie. Bonjour à toute l'équipe et merci pour la qualité de certaines de vos émissions.
Merci.
Oui, ma question, vous parlez de, à votre invité, vous parlez de droite populaire, de droite sociale, mais est-ce que ce n'est pas Monsieur Macron qui serait, par ses promesses, le meilleur pour cette droite sociale, si on remet des guillemets, sans vouloir être méchant? Est-ce que c'est pas Monsieur Macron finalement qui serait le meilleur?
Aurélien Pradier, merci pour cette question.
C'est une bonne question, monsieur. Moi, j'ai siégé à l'Assemblée nationale depuis 5 ans. J'ai constaté à quel point l'ADN politique du président de la République était le mépris social. Je pèse mes mots en le disant. Prenons un exemple très concret. Je me suis battu avec plusieurs de mes collègues à l'Assemblée pour déconjugaliser l'allocation adulte handicapé. Ça paraît être un sujet très technique, mais c'est un vrai sujet de justice sociale pour des millions de nos concitoyens. Ça dit beaucoup de la vision de la société. Et bien, durant 5 ans, le président de la République et son gouvernement se sont opposés à cette mesure de justice. Je crois en réalité que ce qui nous différencie...
Même s'ils l'ont acté là, en toute fin de campagne, Emmanuel Macron a dit qu'il allait bouger là-dessus. Hein.
Oui, pendant 5 ans, il a bloqué, et en période électorale, il a dit qu'il allait bouger. Vous conviendrez avec moi tout de même que je crois plus aux actes qu'aux promesses électorales. Mais la vision même de la société, j'ai pas besoin de la détailler. Lorsqu'Emmanuel Macron a eu ces mots de mépris à l'égard de nos concitoyens, c'était pas seulement des maladresses, c'était aussi une manière de les considérer, ou plutôt de les déconsidérer. Et je pense que le cœur de la politique, le cœur de la droite française, dans son ADN politique, c'est d'être attentif aux plus humbles de nos concitoyens, aux plus modestes, à ceux qui travaillent dur, je le dit, et qui aujourd'hui ne trouve pas la dignité nécessaire. Ça peut paraître être un débat théorique tout cela, mais en fait je pense que c'est un débat absolument fondamental. La perte de dignité pour des millions de nos concitoyens, l'injustice à tous les étages de notre pays est un poison absolu. Je ne crois pas à la gauche misérabiliste, je ne crois pas à Emmanuel Macron dans sa capacité à recoller les morceaux du pays, et je pense que nous avons un chemin à droite.
Alors, un exemple concret, le pouvoir d'achat, lorsqu'on parle de droite sociale, on est pile dedans, me semble-t-il. En quoi auriez-vous une approche différente de celle d'Emmanuel Macron et du gouvernement, qui a dépensé 25 milliards pour soutenir le pouvoir d'achat, le blocage des prix de l'énergie, le chèque inflation, bientôt le chèque alimentation? Que feriez-vous de différent? Quelle approche différente?
Le sujet fondamental derrière le pouvoir d'achat, c'est la question du salaire. Vous savez, quand on parle de pouvoir d'achat, souvent, on évite d'aller au fond du sujet. Le fond du sujet, c'est le salaire. Est-ce qu'aujourd'hui, le salaire d'une aide-soignante est à la hauteur du travail qu'elle fait? Pas du tout. Et si on veut demain redonner aux aides-soignantes un vrai salaire, il faut revoir totalement le système de financement de notre sécurité sociale, notamment. Lorsque, aujourd'hui, on voit des jeunes qui travaillent pour des sociétés internationales qui livrent des sushis à 2h du matin pour un salaire de misère, est-ce que c'est la vision que la droite française a du travail? Pas du tout. Moi, je crois qu'il faut refonder les salaires. Je sais que c'est un chantier extrêmement ambitieux. Mais si la politique n'est pas là pour relever des chantiers ambitieux, elle ne sert à rien.
Ça veut dire quoi, refonder les salaires, Aurélien Pradier?
Ça veut dire les rendre plus justes, ça veut dire comment retravailler sur la participation des salariés, non seulement au salaire, mais à la décision de l'entreprise. Et c'est pas du bricolage qu'il faut. Comment, dans une société qui gagne de l'argent, les salariés peuvent aussi bénéficier des revenus gagnés par la société? Comment est-ce que dans des sociétés totalement ubérisées, on n'exploite pas les salariés? Tout ça, ce sont des sujets qui ne sont pas des sujets de gauche, ce sont des sujets de droite, parce qu'ils relèvent de la justice, du mérite, du travail, du métier, de l'effort que chacun peut produire pour être reconnu ensuite.
Vous êtes au téléphone et vous êtes en train de bouger. Il y a un peu d'écho par rapport au début de notre entretien. Si vous pouvez retrouver un endroit où il y a moins d'écho, ce serait parfait. On va écouter la question d'Alain en attendant. Bonjour Alain.
Oui, bonjour. Ma question, elle est apolitique. Considérez la situation actuelle. Quelle sera votre position sur la dette française qui va devenir très coûteuse, considérée l'inflation? Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'agence France Trésor émet environ à moyen terme entre 10 et 15 milliards par mois de la dette. Ceci n'est plus possible. Donc, en clair, allez-vous augmenter la CSG ou la TVA, et à quelle échéance?
Merci pour votre question. Aurélien Pradier, la dette, voilà un sujet de droite.
C'est un sujet politique. Et je crois que d'ailleurs on ne l'aborde que sous un aspect technique, alors que c'est d'abord un sujet éminemment politique. D'abord, la dette, il ne faut pas confondre la dette utile au pays et la dette inutile au pays. Il se trouve que les mois passés, et même avant même la crise sanitaire, Emmanuel Macron a fait des chèques liés au fonctionnement du pays sans jamais réformer ce qui devait l'être. Le devoir de la droite française, c'est d'économiser de l'argent là où c'est utile, là où c'est nécessaire. En revanche, je n'ai aucun problème pour dire que la dette qui consisterait demain à investir dans nos petites entreprises, à investir dans notre école, à investir dans notre hôpital, est une dette utile au pays. Ça, c'est un débat éminemment politique, y compris ce que je vous dis là. À droite, pendant des années, on a considéré qu'il fallait réduire les dépenses sans se demander celles qui permettaient de donner un avenir au pays et celles qui ne le permettaient pas. Que demain, dans notre dette nationale, nous investissions pour la recherche autour du cancer, par exemple. Voilà un vrai sujet politique, éminemment politique. Et cette dette-là, je considère que ce n'est pas une dette inutile, c'est une dette productive. Le message que j'ai là, c'est un message bassement gaulliste, simplement gaulliste, qui n'est pas un message comptable, parce que je pense que le message comptable, il n'a pas de sens.
Mais ce que disait notre auditeur, c'est que les taux d'intérêt vont remonter, la dette, on l'emprunte sur les marchés financiers, elle va donc coûter de plus en plus cher. Au fond, où faites-vous les économies? Parce qu'il faut aussi faire des économies.
La dette n'est pas seulement empruntée sur les marchés financiers, la Banque Centrale Européenne aujourd'hui a un rôle absolument stratégique à jouer. La Banque Centrale Européenne est un outil politique avant d'être un outil, à mon sens, financier ou comptable. Donc on doit avoir cette discussion technique sur le stock de dette, notamment produit durant la période Covid. Qu'en faisons-nous? Comment nous l'étalons? Est-ce qu'on doit réfléchir à une dette perpétuelle pour ne pas grever notre capacité d'investissement? Ça, c'est un débat absolument politique. Pour le reste, il y a aujourd'hui dans notre pays des dépenses qui sont inutiles. On parlait de dépenses sociales tout à l'heure. Il y a des sujets sur lesquels on investit, on dépense inutilement des mesures de soutien social et tout
par
un
exemple,
tas de... Par exemple, dans les aides sociales au quotidien, je le vois comme beaucoup de nos concitoyens peuvent le voir, il y a des dispositifs d'aide qui ne marchent pas, qui bénéficient toujours aux mêmes inutilement. Et je considère qu'on aurait d'autres outils qui permettraient de bien mieux faire les choses. Et je vous parlais tout à l'heure de l'hôpital et de l'école. Pour moi, ce sont des sujets stratégiques sur lesquels il n'est pas question de faire de coupes sombres.
À propos de dette, monsieur le secrétaire général des LR, où en est l'opération remboursement des frais de campagne et la collecte pour cela chez LR?
La collecte de Valérie Pécresse, je ne la tiens pas tous les jours en ligne de mire. Je sais que les choses ont bien avancé et que notre famille politique, notre parti, viendra en soutien parce que notre situation financière le permettait. Si votre question est de savoir si nous sommes matériellement en danger, ce n'est pas le cas parce que nous avions fait des efforts de gestion depuis plusieurs années. Et c'est un point important parce que dans une démocratie, une famille politique, elle a aussi besoin de moyens pour fonctionner. Ce sera toujours le cas demain.
Et ma question, c'est aussi sur les moyens de faire campagne pour les candidats dans les circonscriptions. 5 000 euros, pas plus, a-t-on pu lire dans la presse. Est-ce que vous confirmez ce chiffre? Ça fait peu, 5 000 euros pour faire campagne aux législatives.
Notre famille politique n'a jamais attribué des sommes extravagantes aux candidats. Je peux vous dire, et je le vois au quotidien, on accompagne tous les candidats. Parce que c'est pas simple. Je peux l'assurer que même quand vous êtes député sortant, c'est pas simple de financer votre campagne électorale pour aller convaincre les électeurs. Et donc, on accompagne chacun des candidats. Aucun candidat Les Républicains ne sera en situation de ne pas pouvoir mener campagne. À chaque fois, on trouve une solution. C'est aussi notre boulot de famille politique.
Vous envisagez un groupe LR de combien de députés?
Et moi, je ne suis pas un adepte du PMU et du tiercier, donc je ne sais pas.
Même un vendredi 13.
Ce que je sais, même un vendredi 13. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que sur le terrain, j'entends, et je le vois moi dans mon département du Lot, des électeurs de droite et de gauche nous dire « on a besoin à l'Assemblée nationale de députés indépendants, libres, qui puissent nous défendre ». Et je pense que les Républicains, nous avons fait les preuves que nous savions à l'Assemblée nationale défendre les Françaises et les Français.
Est-ce que vous serez aux côtés du gouvernement pour réformer les retraites, repousser l'âge légal de départ à la retraite?
La question ne se pose pas comme ça. Moi, je ne sais pas ce qu'il y aura dans le texte de réforme des retraites.
Oh bah, vous savez que le projet, c'est 64, voire 65 ans pour l'âge légal.
Eh bien, nous aurons un débat. Et s'il y a des points d'accord qui permettent de faire avancer les choses, nous les soutiendrons. Et s'il y a des points de désaccord, vous pouvez compter sur moi pour l'exprimer. Sur la réforme des retraites, ma conviction profonde est qu'on prend le sujet par le mauvais bout. La question, c'est pas l'âge de départ à la retraite. La question, c'est la pénibilité. Et je considère que nous devrions demain travailler à un régime universel de pénibilité. Lorsque, comme moi, vous êtes député à 70 ans, je ne serai pas physiquement cassé, je le sais. En revanche, lorsque vous êtes un artisan, à 70 ans, vous êtes cassé. C'est ça la justice. C'est pas avoir une vision mécanique des choses. C'est ce que je défendrai avec d'autres collègues à l'Assemblée nationale.
Est-ce que vous vous sentez isolé dans votre volonté de ligne sociale pour la droite et pas de ligne identitaire? Après tout, les primaires ont montré que la partie pro-identitaire, disons-le comme ça, chez les LR était importante, derrière Éric Ciotti. Est-ce que vous vous sentez isolé, Aurélien Pradier?
Quand on a des convictions, on se sent jamais isolé.
Oui, ça, c'est pas une réponse.
Si, c'est une réponse, figurez-vous. Parce que moi, je suis pas en train de faire des petits calculs en me demandant si je me place bien. Si
non, mais on fait pas de la politique tout seul.
Je vous dis,
on fait pas de la politique, on peut tenir un discours, mais il faut rassembler autour de soi. Est-ce que vous vous sentez isolé?
Vous avez raison, mais je ne me sens pas du tout isolé, d'abord parce que j'ai des convictions, et pardon de vous dire que ça commence par là, et ensuite parce que je vois dans ma famille politique, notamment à l'occasion de la désignation de notre candidate à la présidentielle, que la ligne que vous évoquez n'est pas majoritaire, et je vois autour de moi des femmes et des hommes de toute génération nous dire « il est temps de renouer avec une droite populaire ». Et ce travail-là, je ne le ferai pas seul, c'est aussi ma mission, non seulement d'avoir des convictions auxquelles je crois, avec sincérité, et la sincérité, vous savez, ça permet d'embarquer beaucoup de monde autour de soi.
Et vous êtes toujours attaché à votre mouvement ? Vous n'étiez pas au Conseil national samedi dernier ?
Je n'étais pas au Conseil national samedi dernier parce que j'étais dans ma circonscription. Et vous comprendrez que le moment est important pour être aussi dans nos territoires. Quant à l'attachement à ma famille politique, il est absolument indéfectible parce que je crois à une valeur humaine et politique qui est la fidélité. Et je n'en démordrai pas.
Merci Aurélien Pradier. Dans votre circonscription, parce que vous êtes candidat aux législatives, mais vous étiez bien invité en tant que secrétaire général des Républicains. Pour des questions de temps de parole, on n'a pas évoqué votre circonscription en détail. 13h45.
France Inter, le 13-14.
À suivre, le vif de l'histoire dans 10 minutes. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Deux étudiants aujourd'hui dans le vif.
Przemyśle, polonais, tabassé à mort par les miliciens. Et Malik Hussekin, tous les deux objets de deux films.
Vous nous détaillerez cela avant cela, le feuilleton. Une semaine dans la vie de Valentine Fortin qui prépare le Tour de France cycliste. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Aline Afanoukoé.
Bonjour Bruno.
Le chanteur Patrick Coutin est à votre micro aujourd'hui. Ce sont les 40 ans de son « J'aime regarder les filles ». Et Patrick Coutin sort un nouveau titre aujourd'hui. Pour cette une chanson, il a choisi « Le déserteur », chanson antimilitariste de Boris Vian qui a marqué sa vie.
Et depuis son tube légendaire en 1981 qui annonce désormais la saison des plages tous les étés, Patrick Coutin a enchaîné 15 albums, des concerts et des tournées. Il m'a raconté combien « Le déserteur » de Boris Vian illustre profondément son âme pacifiste.
D'abord, c'est une chanson qui parle de pacifisme. Je fais partie d'une génération, dans les années 70, on était pacifique. Ce mouvement pacifiste, c'est parti d'Amérique, avec les hippies, toute une jeunesse qui voulait pas de la guerre au Vietnam, et petit à petit est arrivé en Europe. On était dans un monde qui sortait de la dernière guerre mondiale, et d'ailleurs de la première, et on ne voulait plus de guerre. On était persuadé que les guerres ne servaient à rien, si ce n'est à tuer des gens, innocents pour la plupart, que c'était un désastre au niveau de la haine. Et donc, cette chanson, alors qu'elle était de 1954, qu'elle était écrite à l'époque de Bien Dien Phu, etc., par un Boris Vian qui n'était pas de notre génération, on était des gamins, cette chanson est devenue un peu emblématique du pacifisme, qui à mon avis reste une belle idée, donc, et auquel je pense beaucoup en ce moment, bon, pour des raisons... lambda, quoi, comme tout le monde.
Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens.
Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça fait du mal de savoir que ma génération, parce que je parle souvent de ma génération, nous n'avons pas réussi à léguer un monde tellement meilleur à nos enfants.
Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants.
Le déserteur de Boris Vian, raconté par Patrick Coutin aujourd'hui, Aline.
D'abord revisité par Marcel Mouloudji, puis de Serge Reggiani à Juliette Gréco, en passant par John Baez. Eh bien, cette chanson exprime un seul message. La guerre est une souffrance pour tous. Patrick Coutin l'a gravé sur son cœur de rocker et de déserteur à la fois.
Pour être parfaitement honnête, je suis un déserteur lâche parce que... Non, mais je vais vous dire la vérité.
C'est la double peine.
Je voulais pas faire l'armée. Je pense que quand on apprend à se servir d'une arme et quand on fabrique des armes, un jour ou l'autre, on va s'en servir. Donc notre idée, c'était de ne pas faire l'armée, qui était en plus un moment un peu compliqué, un peu mystérieux pour des gamins de 18 ans. Donc j'étais étudiant, j'avais ce qu'on appelle un sursis à l'époque, donc on pouvait repousser le moment, où, parce qu'il y avait une armée obligatoire en France. Je rappelle qu'on devait faire son service militaire.
Ah oui.
Voilà. Et c'était sérieux.
Il y
a eu
beaucoup de tricheries pour échapper au sort.
Oui,
de...
puis ça durait 2 ans cette affaire. Donc d'abord j'ai eu droit au sursis, et puis quand le sursis est arrivé à la fin, je suis parti aux USA, où j'ai passé 2 ans, 2 ans et demi, en faisant comme si on recevait rien à la maison. Mes parents me disaient quand même, tu sais, t'as reçu un truc de l'armée, vous dites que je suis pas là. Et j'ai été rattrapé, et j'ai réussi effectivement à l'époque à ne pas la faire, parce que j'avais déjà 28 ans ou 29 ans, ils se sont demandé qu'est-ce qu'on va faire d'un mec pareil. Mais j'appelle ça de la lâcheté parce que, dans une certaine mesure, un vrai pacifiste aurait dû aller militer à l'intérieur de l'armée pour dire il ne faut pas faire la guerre. Voilà.
À qui aimeriez-vous envoyer cette chanson aujourd'hui, Patrick ?
Oh, j'aimerais l'envoyer à mes enfants. Je le dédie à tous les gens qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans. Et j'ai envie de leur dire, essayez de travailler pour que dans le futur, il faut y croire. On avait réussi à passer 40 ans pratiquement sans guerre trop violente. Travaillez pour que dans le futur, on revienne à cette idée que nous n'avons pas besoin de la guerre pour régler les problèmes. Et qu'on doit tout faire jusqu'au dernier effort possible pour éviter que ça commence. Parce que quand ça commence, après, c'est pas où ça va, quoi.
Merci beaucoup, Patrick Poutin.
Merci.
Je mentirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens...
Le déserteur Boris Vian, choisi par Patrick Coutin, lui qui sort un nouveau titre aujourd'hui, La balade de Jésus 4.
Et qu'on retrouvera le 4 juin sur la scène de la crèche à Éliante.
Merci Aline. Merci Afanouko et bon week-end.
Bon week-end à vous.
Et merci pour ces deux semaines. Lundi, on retrouve Frédéric Pommier. C'était un plaisir, Aline.
Pour moi aussi, merci beaucoup.
Son histoire s'est écrite en pointillé, une première édition en 1955, puis du milieu des années 80 à 2016, en changeant régulièrement de nom et de format. Le Tour de France féminin, rebaptisé Tour de France femmes, doit renaître cet été. Cela succédera à la grande boucle du 24 au 31 juillet. Depuis le début de la semaine, nous suivons Valentine Fortin de l'équipe Cofidis qui prépare ce rendez-vous. Le jour du grand départ approche. Dernier épisode du feuilleton avec Fanny Lechevestrier.
Le Tour de France, on sera 6 filles. Ça sera la meilleure équipe. J'espère en faire partie, évidemment, parce que c'est quand même la première édition du Tour de France féminin. C'est quand même un super événement et j'espère qu'on aura autant de public que les hommes. Je pense que c'est une bonne chose que ça passe après les hommes, justement. C'est vrai que 3 semaines dans le canapé à regarder les courses le week-end, c'est super cool, on fait la sieste, tout ça. Mais là, il y a une 4e semaine. Alors, tenez-vous prêts, c'est du jamais vu. Les gens vont, on va leur montrer qu'on va pas s'ennuyer sur des courses féminines. Ça bouge un peu moins que les hommes, mais c'est tout aussi dur. Et voilà, nous, on va montrer que pas de différence.
Il y a encore besoin de prouver ?
Il y en a, je pense, qui sont pas encore totalement convaincus du cyclisme féminin. Après, on s'en fout. Non, on n'a rien besoin de prouver parce que je pense qu'on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on est et on sait pourquoi on le fait. Après, voilà, c'est plus pour montrer quoi, que nous aussi, on fait du cyclisme, comme les hommes, c'est pareil.
Le fait qu'il ne dure qu'une semaine, il y a des filles qui s'en sont émues. Est-ce que vous, ça vous choque ?
Non, parce que faut quand même rester à sa place et je suis pas sûre qu'on peut faire plus. Enfin, il y en a qui peuvent faire une Van Vleuten, des filles de la SD Works, oui, elles peuvent le faire, mais bon, elles finiront à 10 après 3 semaines. C'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est qu'il y ait du monde à la fin, que ça fasse des très belles étapes et qu'il y ait du suspense. Si au bout de 3 semaines, on termine à 10, il n'y a plus grand-chose à faire. Non, je pense que c'est judicieux. Après, voilà, le cyclisme féminin évolue. Peut-être que dans quelques années, on pourra faire ça. On voit qu'il y a beaucoup plus d'homogénéité chez les femmes. Une Van Vleuten, il y a 2 ans, elle gagnait tout. Il n'y avait personne qui pouvait la suivre. Maintenant, le niveau a vraiment évolué. Et c'est du suspense à chaque fin de course. Je pense qu'il faut du temps. Les nombres de kilomètres évoluent. On va avoir 175 km, je crois, sur une étape du Tour. C'est super long, on n'a jamais vu ça.
Il y a eu une dérogation spéciale, d'ailleurs, accordée par l'Union Cycliste Internationale.
Ouais, non, mais c'est ça. Donc, voilà, chaque chose en son temps. Je pense qu'il ne faut pas brûler des étapes. Et voilà, c'est comme le cyclisme français féminin. Ça évolue. Avant, on n'avait que quelques filles. On pouvait les compter sur une doigt de la main, les filles qui étaient professionnelles. Maintenant, on a des équipes françaises professionnelles, de nombreuses filles qui rentrent dans des équipes professionnelles, étrangères. Voilà, j'ai cité Juliette Laboux. C'est des super exemples et qui portent fièrement les couleurs de la France au plus haut niveau. Et c'est super d'avoir ce genre de filles à ce niveau-là, quoi.
Vous agace qu'on parle encore de Jeannie Longo ?
Non, ça m'agace pas parce que elle a quand même marqué le cyclisme en France. Donc on connaît le cyclisme par Jeannie Longo, mais elle n'a pas beaucoup partagé avec nous son expérience. C'est ça que je trouve un petit peu dommage. Très prochainement, on connaîtra le cyclisme féminin par des filles françaises. Il faut que ça évolue. L'idée, c'est qu'à des Jeux Olympiques, on n'ait pas qu'un seul quota, qu'on en ait plusieurs, quoi, parce que c'est ça qui est dommage. Je pense qu'on n'est pas encore récompensé à notre juste valeur, mais je pense que pour Paris, ça sera déjà, le quota sera bien plus élevé vu les résultats actuels des Françaises.
Le feuilleton Une semaine dans leur vie, réalisation cette semaine. Lucie Le Marchand au reportage, Fanny Lechevestrier. Une semaine dans leur vie, c'est réécoutable sur franceinter.fr et sur les bonnes plateformes de podcast, cette série et les autres.
France Inter, le 13-14.
Dans le vif de l'histoire aujourd'hui, Jean Lebrun, deux étudiants. Le premier, c'est Malik Houssekine. En 86, il était mort après avoir été battu par des voltigeurs de police. Une série lui est consacrée cette semaine sur Netflix. Le destin du second est raconté dans un film au cinéma cette semaine. Il s'appelle Grégory Prémichke. C'est à Varsovie, en 1983, qu'il était tombé sous les coups des matraques des miliciens polonais.
Le rapprochement est tentant. Alors, le drame qui s'est déroulé en 86 rue Monsieur le Prince à Paris, c'est bien plus qu'un fait divers. Le ministre de l'Enseignement supérieur, De Vaquet, avait lancé en service commandé une réforme qui avait déclenché de nombreuses manifestations. Le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, avait averti le Premier ministre Chirac, attention, les lycéens vulnérables vont rejoindre les manifestants, réduis la voilure. Chirac avait répondu, un capitaine ne change pas de cap au premier coup de vent. Le cothurne de Pasqua à l'intérieur, Robert Pandreau, on les appelait Starsky et Hutch, mais ils s'entendaient mal, venait de recréer une unité de policiers voltigeurs à moto. Dans la nuit du 5 décembre, deux d'entre eux s'en prirent à Houssekine, d'origine algérienne, un jeune homme qui souffrait d'insuffisance rénale.
Et la mort de Malik Houssekine a laissé une trace profonde.
Bah, quand je passe, moi, rue Monsieur le Prince, je choisis toujours la portion de trottoir où a été scellée une plaque à sa mémoire. Pour ma part, je me souviens surtout d'un moment explosif de la traditionnelle confrontation gauche-droite. Antoine Chevrolier, le réalisateur de la série de cette semaine, parle, lui, d'une grande affaire française et a choisi d'insister aussi sur sa dimension familiale. Rachid Bouchareb, l'auteur d'Indigène, va présenter une autre version en avant-première de Cannes. On peut parier que l'accent sera mis sur l'affaire franco-algérienne.
L'autre film dont vous voulez parler se passe à Varsovie, très peu d'années auparavant. Est-ce que c'est une affaire polonaise?
Ben non, comme l'affaire Houssekine, c'est bien davantage. Nous sommes en 83, le général Jaruzelski, en 81, en service commandé par Moscou, avait imposé l'état de siège. On en sortait à peine. Interpellé par des miliciens, le jeune Grégory Prémichke affirme qu'il n'est plus obligatoire maintenant de présenter ses papiers, même s'il les a sur soi. Il est tabassé à mort, lui aussi. Il était le fils d'une poétesse militante de Solidarność, le syndicat qui tenait tête au régime depuis des années. Son enterrement rassemble une foule considérable. Il est célébré par le père Populeshko, dont les prêches chaque semaine saluent les victimes de la répression. Ni en France, ni en Pologne, les autorités ne peuvent empêcher un procès. Qu'en France, deux policiers comparaissent, ça étonne. Pasqua et Pandreau, Starsky et Hutch, avaient habitué l'opinion à protéger l'uniforme en toutes circonstances. Bon, les deux prévenus sont condamnés, mais seulement à des peines avec sursis. En Pologne, ceux qui comparaissent sont les ambulanciers, qui n'auraient pas transporté Prémichke assez vite à l'hôpital. Vous voyez que la comparaison entre les régimes des deux pays ne fonctionne pas jusqu'au bout. En France, on ne sache pas qu'il se soit produit quelque chose d'aussi atroce qu'à Varsovie en 84. Le père Popieluszko a alors été enlevé, torturé à mort, jeté, défiguré dans un réservoir de la Vistule.
Et pourtant, vous maintenez le rapprochement.
Bah, je suis étonné qu'on soit si peu nombreux à le faire, ce rapprochement. J'ai un début d'interprétation. La série Houssekine montre bien comment la famille a été broyée par le conflit idéologique droite-gauche, si facile à déployer en pareilles circonstances. Faut pas oublier qu'en 86, nous sommes en période de cohabitation. Le président Mitterrand descend aussitôt de son balcon pour aller rendre visite aux parents de Malik à Meudon, sa berline garée ostensiblement dans le quartier. Un an auparavant, encore en possession de tous ses pouvoirs, il avait reçu Jaruzelski pendant une heure à l'Élysée. Encore un souvenir. Bien plus tôt dans le règne, l'automne 81, Lech Walesa, le leader du syndicat Solidarność, qui était venu à Paris et le journal auquel j'appartenais, La Croix, l'avait invité à déclencher les rotatives de l'édition du jour. Les ouvriers cégétistes de l'imprimerie avaient menacé de se mettre en grève s'il était fait cet honneur à cet ennemi de la classe ouvrière. Enfin, faut l'avoir vu pour le croire. Une partie de la gauche française a mis du temps à admettre que les dictatures communistes étaient une imposture. Il ne lui vient toujours pas spontanément à l'esprit que Walesa, la famille de Prémichke ou le père Populeshko peuvent être aussi des héros.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire tous les jours avant 14h et le vendredi à 18h. Intelligence Service, demain, Georges Sand et la campagne. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
En direct de Lille, qu'est-ce que vous faites à Lille, Vénard?
Eh bien, il y a un rendez-vous qui s'appelle Utopia, sauvegarder la nature par le biais de l'art. C'est l'objet de ce rendez-vous et on en parle avec plein d'artistes dans un instant.
On vous retrouve avec plaisir dans quelques minutes.